J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous irez même encore mieux après. C'est mon souhait en tout cas. Bah voilà, en fait, je vais parler de Jonas. Vous connaissez tous le livre de Jonas, n'est-ce pas? Et si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment pas grave. Je voudrais juste parler d'une journée que j'ai vécue. Alors, on a tous nos journées, elle n'avait pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais à Dijon, il y a dans la ville un café tenu par des chrétiens. Et l'idée, c'est d'être un endroit un peu missionnaire où des gens viennent et puis une relation s'établit et puis on partage aussi l'évangile comme ça au fil du temps. Et dans une de ces journées, je me souviens, la journée démarre et j'étais de service. Donc mon principal boulot, c'est de faire du café, hein, tout simplement. Voilà. Et j'ai réussi à comprendre comment marche une machine à expresso au bout d'une bonne journée d'apprentissage. Et la journée commence avec un jeune homme qui arrive en fauteuil roulant. C'était assez jeune et assez fashion, hein. Il dans son look, dans ses vêtements. Et puis, je m'approche de lui et je lui demande qu'est-ce qu'il veut, quoi. Est-ce qu'il veut boire quelque chose? Alors, il veut prendre un café, mais en fait, il m'explique qu'il vient surtout pour discuter, parce qu'il aime bien discuter. Et il s'appelait Mohamed et c'est un musulman. Et on commence à discuter ensemble. Et en fait, il était là et il avait un peu l'idée. Il avait compris que c'était un café où il y avait des chrétiens. Et puis, il se sentait porteur d'une bonne nouvelle pour les chrétiens. C'était de venir nous expliquer que la Bible était fausse, en fait. Mais il le faisait vraiment de tout son cœur. Il vient, j'ai vraiment eu quelque chose pour vous, une parole pour vous. Et alors, je pense qu'il avait discuté avec d'autres serveurs dans le passé qui n'étaient pas forcément à l'aise. Parfois, c'était des jeunes filles qui étaient un peu impressionnées. Oui, d'accord, elles répondaient. Voilà, voyez un peu ce que je veux dire. Et il était très gentil. Hein. Moi, c'était la première fois que je parlais avec lui. Mais en fait, il n'avait jamais discuté avec un chrétien qui lui répondait clairement. Et en plus, avec un chrétien qui avait lu le Coran aussi. Parce que moi, je l'ai lu quelques fois, le Coran, ça se lit très vite, hein. Le Coran, c'est plus petit que le livre d'Ésaïe, en vérité, en quantité de pages. Donc, quand on compare la quantité de mots du Coran et de la Bible, je veux dire, c'est pas pareil du tout. Et pour la première fois, il a eu quelqu'un qui lui répondait sur la véracité de la Bible. Mais qui même amenait la controverse sur le Coran, du coup. Parce que c'est ce que j'ai fait avec lui. Alors, ça a duré comme ça une heure. C'était un débat amical, hein, mais un peu... Voilà, il y avait du tonus, hein, vous imaginez. Puis ça s'est fini comme ça, et puis on s'est dit, c'est vrai, on l'a jamais revu du coup. Hein. Mais ça s'est fini un peu comme ça. Ensuite, après lui, dans cette journée, il y a un groupe d'étudiants qui est venu sur la terrasse. Il y a une petite terrasse avec deux tables. Alors, je vais être franc, hein, ces étudiants, ils n'avaient pas l'air d'étudier grand-chose en vérité. Hein. Voilà, le café, c'est pas cher, et puis dans le café, on peut prendre un café et rester toute la journée avec un café. Vous voyez, et puis profiter de la connexion Wi-Fi. Donc c'est un bon plan, hein, je comprends tout à fait. Hein. Mais ils venaient souvent, et puis c'est des gens avec qui on commençait aussi à parler de la foi, parce qu'ils captaient un peu notre projet. Et donc on enchaînait avec ce groupe d'étudiants, qui me rappelait un peu certains amis que j'ai eus, d'étudiants pas pressés de s'installer dans la vie, quoi, hein. C'était un peu ça. Un peu après ce groupe d'étudiants, plus tard dans la journée, il y a une fille qui est venue, et qui a parlé de graves problèmes dans son couple, très lourds, très graves. Et puis, il y a eu d'autres choses, d'autres personnes. Et à la fin de cette journée, enfin, c'est pas toujours comme ça, hein, dans ce café. Hein. Des fois, il se passe pas grand-chose. Hein. Mais je me suis dit, puis là, on a eu l'occasion, quand même, d'être là, et de vivre quelque chose du cœur de Dieu avec ces gens-là. Des gens venaient, et demandaient de l'aide, parce que c'était des chrétiens. Et je précise que beaucoup de ces gens ne veulent pas forcément s'engager dans la foi chrétienne. C'est souvent comme ça. Mais c'est le genre de journée que l'on vit, on se dit, mais le cœur de Dieu, c'est quand même qu'on soit orienté vers les autres. C'est quand même qu'on s'occupe des gens, qu'on pense à eux, qu'on se descende de soi. Et qu'on soit là, prêt à être des témoins et à vivre pour les autres. Et tout ça, voilà, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Et avec Virginie, donc, On essaye de vivre un peu comme ça, à Dijon. Et ça nous amène, ce cœur de Dieu, ça nous amène un peu au message d'aujourd'hui. Ça nous amène à Jonas. Alors juste Jonas, il y a Jésus qui a parlé de Jonas. Vous allez voir pourquoi on parle de Jonas du coup. Pourquoi cette intro avec Jonas ? Hein, il y a ce passage dans Matthieu, où des pharisiens, des chefs religieux hein, de l'époque, chez les juifs, sont allés voir Jésus. Et ils lui ont dit, fais-nous un miracle. Vas-y, fais-nous un miracle. En gros, fais-nous un miracle et on croit en toi. Tu fais un miracle tout de suite. Et... Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, écoute, si tu pries que Dieu parle tout de suite à voix haute, je crois en lui tout de suite. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de croire en Dieu, évidemment, celui qui dit ça. Mais des gens sont allés voir Jésus en lui demandant, fais-nous un miracle. Et voici le passage. Jésus leur a répondu, alors je vais le lire tout doucement, une génération méchante et adultère demande un miracle. Alors je fais juste un arrêt sur image. J'imagine si je suis un des pharisiens, je viens voir Jésus, je lui demande fais un miracle. Et Jésus me répondrait, une génération méchante et adultère demande un miracle. Alors génération méchante et adultère, il le disait à qui à ce moment-là ? À ceux qui venaient de poser la question. Donc comme Brice de Nice dirait, cassé quoi, voilà, déjà. Et Jésus dit, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Pourquoi Jésus a dit ça ? Pourquoi a-t-il dit, le seul miracle que vous aurez, c'est celui de Jonas ? Puis il les quitta et s'en alla. Alors Jésus parle de Jonas et il leur donne une indication. C'est ça que vous allez vivre en fait. Alors on va voir l'histoire de Jonas et je voudrais juste donner 2-3 points sur Jonas, sur cette histoire. Le livre de Jonas, déjà si vous le lisez, si ce soir ou dans la semaine, vous voulez prendre un moment, en 15 minutes c'est lu. C'est très vite, hein. En vérité, beaucoup de livres de la Bible, on s'en fait une montagne, mais ça se lit assez vite. Alors Jonas, il avait quelques caractéristiques. Déjà, il venait de Galilée, comme Jésus. Il venait de la même région. Jonas, ça a été le premier homme du peuple d'Israël envoyé officiellement parler de Dieu à des non-juifs. C'est-à-dire que ça a été le premier... Parce que jusque-là, les prophètes avaient une fonction... C'était de ramener le peuple de Dieu, le peuple d'Israël à Dieu, de ramener le cœur à Dieu. Et là, pour la première fois, Dieu demande à un des prophètes de quitter le peuple et d'aller parler à un autre peuple. Quand Jésus parle de Jonas, il n'en parle pas à n'importe qui. On est dans une société laïque, aseptisée. Alors, je suis pas contre la laïcité, hein, c'est pas ça. Hein, mais où Dieu n'est pas présent dans les discours. Oui, on fait tout même pour qu'il soit absent, pour effacer toute notion. Mais quand Jésus parle aux pharisiens, ce n'est pas du tout le cas. Dieu est au centre du jeu, en tout cas à travers la loi. Et Jésus est en train de rappeler donc à des chefs religieux juifs que le signe qu'ils auront, c'est le signe de Jonas, le premier prophète envoyé à des non-juifs. Alors je pense que ça faisait un petit peu trembler déjà, quand il disait ça, parce que l'histoire de Jonas était une histoire assez choquante en vérité. Pendant des siècles, même des rabbins aujourd'hui, et évidemment ça fait partie de la Bible, et ils l'acceptent sans problème, mais c'est une histoire qui n'est pas évidente à vivre, sur pas mal de points. L'autre point commun, c'est que Jonas a été 3 jours et 3 nuits considéré comme mort. Dans le ventre d'un poisson englouti. Et là, évidemment, on trouve une analogie avec Jésus qui est ressuscité après 3 jours et 3 nuits de sa crucifixion. Alors l'histoire de Jonas, pendant des siècles, on est en 2018 maintenant, j'arrive pas à y croire qu'on est en 2018. Hein. Pendant des siècles, l'histoire de Jonas, le livre de Jonas, ça a été un des livres les plus moqués par les sceptiques. Ça a été un des livres les plus critiqués pour les quelques points que je vais vous dire. D'abord à cause de son style d'écriture. Parce que dans le livre de Jonas, il y a un style narratif, mais également poétique. Chapitre 3, c'est très poétique, la prière de Jonas. Et alors, des gens d'aujourd'hui ou après disaient, mais Quand Jonas est dans le ventre du poisson, est-ce qu'il va faire des belles prières bien structurées, comme c'est écrit dans le livre? Mais on oublie peut-être une chose, c'est que plus on avance dans le temps, plus on a un rapport peut-être décontracté avec Dieu dans nos prières. Mais pendant des siècles, quand les gens s'adressaient à Dieu, on pesait bien nos mots dans nos prières. Et surtout les Juifs, ils disaient pas n'importe quoi dans leurs prières à Dieu. Dieu, c'était le souverain, c'était le Tout-Puissant. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais il y avait, c'était tout à fait normal d'avoir un certain langage quand on priait. Mais donc des gens ont critiqué le livre à cause de ce mélange de styles. La deuxième chose, évidemment, c'est pas le plus important. La deuxième chose, c'est à cause de Ninive. Alors pendant des siècles, Ninive, on n'en a plus entendu parler. Hein. Comme beaucoup de villes dans la Bible, comme certains peuples dont seule la Bible parlait pendant des siècles. La Bible parlait des Hittites, la Bible a parlé dans quand Israël sort d'Égypte, de certaines villes, d'Aï, de toutes ces villes-là, dont pendant des siècles on n'a plus entendu parler, et les gens ont dit « non mais c'est des fables ». C'est des fables, ça n'existe pas, donc la Bible est fausse, donc le message chrétien est faux. Voilà, ça va toujours jusque-là en fait. Et Ninive, dans le livre de Jonas, on en parle comme d'une grande métropole. Et pendant des siècles, on a dit c'est impossible qu'il y avait à cette époque-là de grandes métropoles. Parce que ça demande une organisation, au niveau de la gestion des habitations, au niveau de quand même d'arrivée d'eau, etc. Et on pense, beaucoup de gens pensaient qu'au Moyen-Orient, c'était pas possible. Donc, si c'était pas possible, c'est que le livre de Jonas était faux, son histoire. Et donc, si cette histoire était fausse, la Bible était fausse. Et il y avait toujours cet enchaînement. Mais nous sommes arrivés au 19e siècle et au 20e siècle. Ce sont les siècles de l'archéologie. Et les archéologues ont découvert que Ninive, avant sa destruction, fut une ville qui pouvait accueillir 200 000 personnes. Et ils ont découvert que d'ailleurs, contrairement à l'Europe, mais au Moyen-Orient, il y avait beaucoup de grandes métropoles. Babylone était une immense ville. Et donc, si vous voulez, au fur et à mesure du temps, les critiques contre la véracité du texte, elles disparaissent les unes après les autres. Mais il y a une autre critique qui est encore plus grande et qui est là. C'est les miracles. Quand on lit Jonas, c'est 4 chapitres, mais il y a des miracles de fou dedans. En 4 chapitres seulement. D'abord, il y a l'histoire d'une tempête qui démarre soudainement et qui s'arrête soudainement. C'est-à-dire que des marins expérimentés diraient « Non, mais une tempête, on sent un peu le vent arriver, ça tourne. » Enfin, moi, je suis pas marin, j'y connais rien, mais j'imagine que ça démarre pas soudainement, quoi. Et surtout, cette tempête s'arrête à partir du moment où les marins prennent Jonas et le jettent par-dessus bord. Alors, je reviendrai sur l'histoire, hein. Et que la tempête s'arrête à ce moment-là. Et des gens disent, mais ça, c'est pas possible. L'autre miracle, c'est évidemment un poisson. Un poisson qui vient gober Jonas. Alors ça, si vous avez regardé les dents de la mer, on sait que les requins peuvent... je veux pas évoquer des mauvaises images. Mais le gros miracle dans cette histoire, c'est qu'un poisson a avalé Jonas, a englouti Jonas dans la mer, et que Jonas est resté vivant pendant 3 jours et 3 nuits, dans le ventre d'un poisson sous la mer. Des gens disent, mais comment il fait pour rester vivant? C'est impossible. C'est pas possible. Ça peut arriver que des poissons soient assez grands pour avaler un humain. Mais en général, on dure pas 5 minutes dedans, quoi. Et que Jonas est ressorti vivant au bout de 3 jours. Alors moi, j'ai eu la grâce de connaître à un moment donné l'école du dimanche. Et je me souviens, à un moment donné, il y avait le gros poisson. Et puis, je crois que l'animatrice nous avait demandé de dessiner un peu Jonas, comment il devait être. Alors moi, j'avais dessiné une table, une petite lampe, enfin, je m'étais imaginé un truc assez cosy, quoi. Hein. Mais quand on y réfléchit, quand je vais au supermarché, je passe devant le stand où il y a les poissons, là. Et au bout de 30 secondes, déjà, l'odeur, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous à l'intérieur d'un poisson vivant. Et les gens disent, mais c'est juste pas possible. Ça serait un miracle, en fait, que ces choses-là puissent se produire. Et puis, autre chose, Jonas s'adresse à un peuple ennemi de son peuple. Donc, c'est-à-dire qu'il arrive là-bas en tant qu'ennemi. Ils disent, mais comment les gens peuvent écouter un prophète et se convertir à sa religion en si peu de jours, en si peu de temps? Parce qu'avant, les conversions massives, c'était l'acte des armées. Une armée arrivait, si vous étiez vaincu, vous deviez adopter le dieu de l'armée qui vous avait vaincu. Et donc, pendant des siècles, les gens ils ont dit, c'est juste pas possible ça. Alors pour les miracles, ça ne se prouve pas, les miracles. C'est tout à fait logique de croire au miracle quand on croit en Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas croire en Dieu ne peut pas croire au miracle, je peux l'entendre. Par contre, toutes les critiques sur le style, sur l'archéologie ont été largement démontées depuis. Alors, si Jésus parle de cette histoire, je veux d'abord dire, si Jésus parle de Jonas, c'est que Jésus considérait que cette histoire était vraie. Et si Jésus compare sa future mort et résurrection à l'histoire de Jonas, c'est qu'il considérait que cette histoire était vraie. L'autre chose, si Jésus parle de Jonas, c'est qu'il considérait que cette histoire avait des choses à nous communiquer. Et il le faisait déjà avec les pharisiens. Et si Jésus parlait du miracle de Jonas, c'est qu'il considère même que cette histoire nous aide à comprendre qui est Jésus. On y va ? Livre de Jonas, chapitre 1, verset 1. J'ai perdu ma page en gesticulant dans tous les sens. Alors, je vais juste le retrouver. On va lire au début, on va juste lire les premiers chapitres. Alors j'ai fait une longue intro, mais je suis souvent comme ça, je fais souvent des longues intros. Je fais souvent des longs développements aussi derrière. Je fais souvent des longues conclusions aussi. C'est fou, j'arrive plus à mettre la main sur Jonas. Dans ? Ah, il est dans le poisson, mais oui. Ah, du coup, ça facilite pas les choses. C'est juste après Abias. Non, mais j'ai les mains un peu froides et j'arrive pas à tourner mes pages de la Bible. J'arrive dessus. Voilà, c'est bon. Je vous propose... Alors déjà, le titre du message, c'est Jonas, l'homme qui ne voulait pas réussir. La Bible est remplie d'hommes et de femmes de Dieu à qui Dieu a parlé et qui évidemment voulaient voir des choses réussir pour Dieu. Sauf un. Jonas, il est atypique, c'est le seul qui voulait que ça rate. Hein, c'est très rare les gens comme ça. Allez, Jonas chapitre 1, versets donc 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, et il lui dit ceci donc. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Un petit arrêt sur image. Dieu parle à Jonas. Alors ça aussi, les sceptiques disent, mais Dieu parle comme ça, mais Dieu parle comme ça dans tout l'Ancien Testament, de toute façon. Dieu s'adresse à Jonas et il lui dit quelque chose qui peut paraître illogique pour Jonas à ce moment-là. Il lui demande d'aller à Ninive, qui est donc la grande ville de l'Empire assyrien. Et les Assyriens, c'est des gens, c'était pas leurs amis, mais ça serait pas les nôtres non plus. Et quand on parcourt d'autres livres de l'Ancien Testament, dans Deux Rois par exemple, on trouve trace de Jonas déjà. Mais il avait connu les Assyriens. Et les Assyriens, dans l'histoire du monde, c'est peut-être un des peuples qui a mis au point les pires tortures contre leurs ennemis. Les Assyriens, lorsqu'ils étaient en train de gagner une guerre, parce qu'ils en gagnaient beaucoup, ils refusaient les négociations. Souvent, quand il y a un combat, qu'on commence à perdre, on envoie une délégation pour proposer d'arrêter le combat et de négocier une fin de combat où on se rend, mais voilà. Les Assyriens étaient un peuple qui refusait ça. Ils avaient inventé des tortures incroyables. L'une d'elles, je ne vais pas toutes les dire, ils avaient trouvé un moyen, alors ils avaient des ingénieurs, hein, mais qui travaillaient dans ce domaine-là, hein. C'était d'empiler des corps de gens blessés vivants, d'en faire une montagne où les gens mouraient pendant 3 jours, tout doucement, en se vidant de leur sang. Et ça, c'était destiné à semer la terreur à leurs ennemis. Et Dieu dit à Jonas, va à Ninive, donc là où il y a le roi des Assyriens, va à Ninive et crie contre cette ville. Donc, je ne pense pas que Jonas était raciste, ce n'est pas une notion qui existait à ce moment-là, mais Jonas se retrouve à devoir aller voir le pire ennemi de son peuple, et le pire ennemi du monde connu au Moyen-Orient à ce moment-là. Mais en plus de ça, pour Jonas, il y avait peut-être une question d'honneur, de déshonneur qui se faisait là. C'est-à-dire qu'il devait se tourner vers les gens de son peuple et dire « Dieu m'a demandé d'aller leur parler ». Et la première chose, c'est pas possible. Dieu est notre Dieu. C'est celui qui nous protège, il a fait alliance avec nous. Comment est-ce que Dieu peut demander qu'on aille voir ces gens? C'est juste pas possible. C'était une contradiction. Pour Jonas, c'était presque une petite mort d'y aller. Donc la première chose, c'est que c'était un appel compromettant. Alors je mets juste, hop. Oui, voilà. C'était un appel compromettant. Pour Jonas, ça devait déranger certainement toutes ses notions. Alors je lis le verset 3. Jonas se leva, donc jusque-là ça va, mais on continue la phrase, pour s'enfuir à Tarsis. Alors, il y a Jaffa, donc Israël, hein. À l'est, il y a Ninive, mais il part de l'autre côté. Il prend un bateau pour s'enfuir à Tarsis. On ne sait pas si c'est en Grèce ou si c'est en Espagne. En tout cas, ce n'est pas dans la bonne direction. Pour s'enfuir, il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Et écoutez bien la fin de la phrase, loin de la présence de l'Éternel. Vous ne trouvez pas qu'elle est bizarre cette fin de phrase? Loin de la présence de l'Éternel. C'est peut-être une formule rhétorique, un peu, je ne sais pas, mais c'est un peu comme si Jonas, en quittant Israël, en partant loin, il s'enfuit en même temps de Dieu, quoi. C'est étrange, comme si Dieu était limité à un territoire géographique, comme s'il était limité à un peuple. C'était pas évident pour Jonas. Alors il prend le bateau, loin de la présence de l'Éternel. Puis on va voir que la présence de l'Éternel, malheureusement, elle ne s'arrête pas à la frontière d'Israël à l'époque. Jonas, le deuxième point qu'on voit, si cet appel est compromettant pour lui, c'est un manque d'amour évident. Mais il n'est pas capable de saisir ça. Il n'est pas capable que Dieu aime les pires ennemis de son peuple. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà eu des conflits avec des gens au boulot, et j'avais parfois du mal à accepter que des gens que j'aime bien soient amis avec eux. Mais ces gens-là, ils ne m'ont pas tué, quoi, ils ne m'ont rien fait. Mais pour Jonas, c'était une autre réalité. Dieu voulait qu'il aille parler aux pires ennemis de son peuple. Mais comment ça marche, ça? Et donc, on va voir que Dieu sauve, même avec un serviteur qui s'enfuit. Parce que là, Jonas, il est en dehors de tous les plans habituels. Le plan habituel, c'est on a une conviction, on va parler à quelqu'un, et puis on espère que ça va bien se passer, que la personne va avoir envie d'en découvrir plus sur la foi, etc. Jonas, non. Il dit, moi, je ne veux pas que ça marche et je pars dans la direction opposée. Alors, on va voir la suite. Donc, Jonas pense s'enfuir de loin de la présence de l'Éternel et dans son cœur, il fait cette prière. Seigneur, pourvu que ça ne marche pas. Alors, on va voir maintenant que Dieu sauve avec un serviteur qui dort. Alors, on va pas lire tout le livre de Jonas, mais on va lire un petit peu. On se fait du verset 4 jusqu'au verset 11, d'accord ? L'Éternel, alors Jonas est dans le bateau, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Alors, moi, si je suis dans un bateau que ça bouge un tout petit peu, j'ai peur. Mais quand les marins expérimentés ont peur, c'est un autre signal, n'est-ce pas? Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient descendus sur le bateau afin de l'alléger. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché, il dormait profondément. On va s'arrêter 2 secondes sur ça. Hein. Après, on reprendra verset 6. On va parler de l'indifférence de Jonas et d'une attitude résignée. Alors à l'époque, les bateaux qui naviguent sur la Méditerranée, il n'y en a pas beaucoup, sont souvent des marchands phéniciens ou alors les grands peuples qui ont une marine de guerre. C'est très rare les marines de guerre, et même aujourd'hui. Mais Jonas, donc, prend un bateau pour s'enfuir, donc je disais, loin de la présence de l'Éternel. Et là, il se passe une première chose. Lorsque la tempête arrive, elle est très violente. Donc les marins ont peur, on l'a lu. Et ils commencent à faire quelque chose, chacun prie son Dieu. Jonas, lui, est dans le bateau et il sait quelque chose. Il sait que leurs dieux ne sont pas des vrais dieux. Et Jonas sait très bien qu'ils peuvent prier autant qu'ils veulent leurs dieux. Ça ne changera rien quoi, au cours des événements. Mais ce qui me surprend, c'est que Jonas descend dans le bateau en pleine tempête, qui fait peur à des marins expérimentés, et il s'endort profondément. C'est comme si, ah, tout se déroule comme je l'avais prévu. Ça ne marchera pas. Je vais me coucher tranquillement. Je suis satisfait. Ah. On dirait presque que Jonas même accepte l'idée de mourir plutôt que de se déshonorer à aller à Ninive. D'ailleurs, l'idée de la mort va revenir plusieurs fois. Alors Jonas a compris que ça ne va pas marcher. Mais on arrive au verset 6. Imaginez Jonas qui dort tranquillement et il va entendre une petite voix et je suis sûr qu'il va prêter l'oreille. Écoutez bien. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi et fais appel à ton Dieu. » Et oui, forcément, les autres dieux, ça n'a pas marché. Mais il y en a un qui ne prie pas dans l'eau. Il y en a un qui ne prie pas. C'est celui qui connaît Dieu, n'est-ce pas ? Mais c'est le seul qui ne prie pas. Peut-être ton Dieu voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Alors le capitaine, il ne savait pas à quel point Dieu pensait à eux à ce moment-là. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Ah ça c'est bon, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Je vais vous dire franchement, je suis Jonas, j'entends cette phrase-là, je suis parti, j'ai conscience que Dieu envoie la tempête pour moi et j'entends qu'ils vont tirer au sort pour savoir c'est à cause de qui. Je ne sais pas pourquoi, mais rien que de lire, je serais méfiant déjà, j'ouvrirais un œil, vous voyez, et j'observerais de loin. Ils tirèrent au sort. Et là, imaginez Jonas. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. On ne peut même plus désobéir à Dieu tranquillement. On ne peut même plus faire ce qu'on veut dans la vie. Dieu vient nous chercher partout. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Mais alors moi, je suis Jonas dans ce qui sort, mais je deviens fou là. Je veux désobéir, je ne veux pas y aller. Le bateau est en tempête, les gars ils tirent au sort, il y a une chance sur je ne sais pas combien pour que ça tombe sur moi à ce moment-là, n'est-ce pas ? Mais non, ça tombe sur Jonas. Alors les marins lui dirent, verset 8, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation ? D'où viens-tu ? » Et oui, Jonas il a payé son transport, mais il lui demande qui il est. Et Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer » et la terre. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Et ils lui dirent, pourquoi tu fais cela ? Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Et ils lui dirent, mais que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? En effet, la mer était de plus en plus démontée. Alors là, c'est comme si le projecteur s'était mis sur Jonas. C'est plus Dieu qui lui parle, mais c'est tout l'équipage qui lui parle à ce moment-là. Et Jonas a conscience que cette tempête, elle a un sens à ce moment-là. Cette tempête qu'il traverse, elle a un but. C'est qu'il y a un changement dans son cœur. Ça peut nous parler à nous, hein. On a d'autres tempêtes. Hein. Mais cette tempête, elle a un sens à ce moment-là. Et notez l'attitude des marins quand même, qui évolue déjà. Chacun a pris son Dieu au départ. Et ils sont conscients que c'est le Dieu de Jonas qui fait ça, le Dieu éternel. Regardons verset 12. Et Jonas leur répondit, prenez-moi. Alors il aurait pu dire, ramenez-moi au bord, n'est-ce pas ? Moi j'aurais été Jonas, j'aurais dit, ramenez-moi au bord et puis je m'en vais et puis vous reprendrez votre... Prenez-moi et jetez-moi par-dessus bord. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Moi, je suis surpris de Jonas. Il n'a pas envie d'y retourner, mais il préfère mourir. Parce que Jonas, il n'a pas lu le livre de Jonas à ce moment-là. C'est-à-dire que quand la mer est démontée, Jonas sait une chose, et tout le monde le sait. S'il est jeté par-dessus bord, il va mourir. Il peut nager peut-être une minute ou deux, mais les flots de la mer, il ne pourra pas tenir. Il va être submergé, il va se noyer. Alors ces hommes, et les marins, ils sont quand même bien, hein, ramèrent pour gagner la terre ferme. On voit qu'ils refusent de jeter Jonas, quoi. Ils peuvent pas, quoi. Mais ils ne purent y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, Ces hommes qui priaient chacun leur Dieu s'adressèrent à l'Éternel. Mais cette histoire, elle démarre, c'est une histoire de fou en vérité. S'adressèrent à l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas. Ils l'ont sacrifié à leur place. Pour eux, ne pas mourir, c'est Jonas qui a été jeté. Vous voyez, le signe de Jonas, on y est déjà, le miracle de Jonas. Ils ont jeté Jonas, à la demande de Jonas. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes, et c'est normal, furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux, donc des engagements. Ces gens qui adoraient leur Dieu, à la fin de ce chapitre, ils offrent un sacrifice à Dieu et le prient. Jonas, dans sa désobéissance, il a amené déjà toute une troupe de marins à Dieu. C'est incroyable, hein, de quelqu'un qu'il ne voulait pas. Mais les marins aussi n'ont pas lu le livre de Jonas. Et quand Jonas est jeté par-dessus bord, pour les marins, il dit « Bah, le pauvre, il meurt maintenant. Il va mourir. » Et chapitre 2, et je ne lirai pas le chapitre dans l'entier, verset 1, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. » Je m'arrête juste là. Jonas, il a vraiment accepté que tout ça venait de Dieu. En fait, il ne l'a pas accepté, il le savait. La foi de Jonas, c'est une foi qui est vraiment énorme. Jonas, il n'y a pas besoin de lui expliquer que Dieu agit. Lui, il n'a pas envie que Dieu agisse. C'est l'inverse parfois de moi dans ma vie. J'ai besoin de me rappeler que Dieu est bon, j'ai besoin de lire sa part. Jonas, il le sait. Il le sait, il en est convaincu à un point où il le sait. Il n'a juste pas envie que ça se passe. Et il pensait que pour pas que ça se passe, il fallait qu'il désobéisse à Dieu. Et on voit que Dieu sauve avec un serviteur qui dort, et même qui coule, on pourrait dire, à ce moment-là. Alors, Jonas, il est dans le ventre d'un poisson. Alors, des gens ont essayé de trouver quel genre de poisson peut avaler un homme. Une baleine ne peut pas. Alors, une baleine, c'est très gros, mais au niveau de la gorge, c'est très serré. On ne passe pas dans une baleine. Donc, voilà, celui qui a le nez qui s'allonge, là, Pinocchio, c'est pas vrai, il n'a pas été avalé par une baleine, voilà. Mais par contre, il y a des grands requins qui peuvent avaler un homme en entier. Ça c'est vrai. Alors, on ne sait pas exactement. Hein. Maintenant, essayons de nous mettre à la place de Jonas. Il y a la tempête, mais lui, il n'en sait plus rien de la tempête puisqu'il est dans le ventre d'un poisson. Je vous ai parlé de mon passage au supermarché au rayon poisson. Jonas, il n'est pas assis dans le poisson. Il y a des trucs verts et oranges qui coulent sur lui. Il y a d'autres poissons morts qui, voilà, des crevettes, j'en sais rien, il y a toutes sortes de choses. Mais Jonas, surtout, il commence à compter le temps, mais ça fait 10 minutes que je suis là, je suis toujours vivant. Plusieurs heures, il n'a pas une montre, évidemment, mais les heures passent, il est toujours vivant. Comment c'est possible d'être toujours vivant? Et si on nous met à la place de ce gars-là, mais qui ne comprenait pas pourquoi il ne mourait pas? Il restait en vie, la vie se prolongeait. C'est juste pas possible, sauf si Dieu le fait. Si l'un d'entre nous essaye cette expérience, vous mourrez, ça c'est sûr. Mais Jonas, il ne devait pas comprendre pourquoi je reste vivant, pourquoi la mort ne vient pas. Et dans ce poisson, Jonas va réfléchir profondément. Le chapitre 2 nous décrit un peu ce retour à Dieu, cette belle prière que vous pourrez lire. Et Jonas, voilà, il a le temps de réfléchir en lui-même et il dit à Dieu, « Mais si tu me sauves, je t'obéirai. » Il en faut, hein, des fois, pour obéir. Hein. À Jonas, il a fallu beaucoup de choses. Mais c'est ce que Dieu va faire pour lui. Verset 11, il est dit, du chapitre 2, « L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur terre. » Alors parfois, on passe vite un peu sur ces histoires, comme si c'était juste des histoires d'enfants. Mais observons 2 secondes. Imaginez les marins au bord de la plage, qui sont en train de préparer leur filet, j'en sais rien, hein. Ils bossent, quoi, comme des marins. Et ils voient un énorme poisson qui vient au bord du rivage, et ils voient que ce poisson a l'air un peu malade, un peu vert, un peu... Voilà, ils commencent à le regarder de loin. il voit ce poisson vomir. Et dans tout le magma qui est autour de... Il voit un gars qui sort une tête. Et le fameux prophète Jonas, mort depuis 3 jours, il le voit sortir du poisson. Non mais il faut essayer de s'imaginer la scène, quoi. Il devait être terrorisé. Ah mais moi, je me serais enfui, quoi. Franchement, j'aurais couru. Le prophète Jonas n'était pas mort. Il était connu, Jonas. Et il le voit sortir d'un poisson, quoi. Mais je suis sûr qu'on ne peut pas réaliser, mais c'était une histoire de fou. Ouais. Alors, Jonas est sur la terre ferme. Et là, on va poursuivre donc. On va maintenant vraiment parler de la compassion de Dieu. Alors, on se lit chapitre 3, verset 1. On se lit chapitre 3. Allez. Ça vous va si on parcourt comme ça le livre de Jonas, hein? Allez. Et que j'essaye de pas être trop long. Oui, j'ai compris. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Et à votre avis, qu'est-ce que Dieu dit à Jonas? 3 jours et 3 nuits dans le poisson, il se fait vomir. Il est sur la plage, il n'a pas encore récupéré. Il lui dit, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. On dirait que c'est le début du livre, en fait, là. Hein? C'est comme s'il y avait un nouveau départ. D'ailleurs, j'ai failli appeler le message. Ah, Jonas le retour. Je l'ai mis en plus. Je croyais que je ne l'avais pas mis. Dieu lui redit la même chose. Il m'est arrivé de me dire, mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, finalement? On n'est pas indispensable. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un autre que Jonas? Parce que Dieu a mis les moyens, quand même, pour faire revenir Jonas sur sa décision. Il aurait juste pu laisser Jonas partir à Tarsis. Voilà, c'est un homme qui aurait désobéi à Dieu, comme tant d'autres. Comme tant d'autres, comme nous parfois. Et puis il aurait appelé quelqu'un d'autre qui aurait été obéissant, qui aurait honoré Dieu. Moi, la seule chose que je comprends, c'est que Dieu voulait que Jonas lui obéisse. Il voulait que Jonas change et lui obéisse. Et il n'a pas lâché Jonas. Alors on vit un remake. Dieu voulait sauver Ninive et changer Jonas. Alors Jonas... Je ne suis pas sûr qu'il ait obéi avec joie, avec amour, avec rayonnement, mais il a choisi d'obéir à Dieu. Et c'est ce qu'on voit. Alors, fais-y la proclamation que je t'ordonne, verset 3. Jonas se leva et alla à Ninive. Donc je crois que c'est 6 semaines de marche à pied par rapport à Jaffa, ou la côte israélienne en tout cas. C'est 6 semaines à pied, donc il a quand même eu le temps de se nettoyer un peu, j'imagine, hein. Or, Ninive était une très grande ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Hein, je vous ai rappelé l'archéologie. Les gens disaient que c'était impossible. Mais l'archéologie a démontré que c'était vrai. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et il proclamait, voici le message de Jonas, un message structuré, avec une proposition centrale très claire, et avec une application très claire. Dans 40 jours, vous allez tous mourir. Vous allez tous crever dans 40 jours. Et Jonas, je pense qu'il devait être heureux un peu, juste sur cette proclamation. Peut-être qu'il retrouvait un peu de la joie, de la bonne humeur, des ailes. Mais c'était le centre du message. Dieu vous annonce que dans 40 jours, vous allez mourir. Verset 5. Et là, je pense que Jonas a vécu quelque chose de pire que dans le poisson. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Alors là, émotionnellement, pour Jonas, je pense que... Il était bon pour une thérapie, là. Ils proclamèrent un jeûne et ils s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive a appris la nouvelle. Vous savez le roi qui empile les corps, hein? On est sur les mêmes, là. Il a appris la nouvelle. Il se leva de son trône. Il retira son manteau. C'est-à-dire qu'il s'humilie. Il enlève ce qu'il différencie des autres à ce moment-là. Il fait un geste qui montre « je ne suis plus le roi, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi ». Il se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, ce qui est un signe d'humiliation profond, même en dehors d'Israël, pour les peuples du Moyen-Orient. « Je m'humilie devant quelqu'un de plus grand que moi, en commençant par le roi jusqu'au plus petit. » Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence, alors ça voulait dire quelque chose chez eux, hein, et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés, et il ne le fit pas. Je pense sincèrement que pour Jonas, c'est le pire épisode du livre. Le poisson, c'est rien à côté. On ne connaît pas l'entièreté du message de Jonas. Il n'a peut-être pas dit qu'une phrase pendant tout ce temps. Mais on a compris qu'il a pu s'adresser au roi de Ninive, qu'il a pu s'adresser au grand. Et qu'il y a une conviction de péché, mais aussi de destruction tellement forte sur les gens de Ninive. Ils ont fait un acte radical. On ne mange plus rien. Mais les bêtes aussi ne mangeront plus rien. Alors si les bêtes ne mangent plus rien, elles meurent. Et les bêtes mortes, ça ne se mange plus après. Hein, et enfin, c'est un cycle. Mais les gens de Ninive, en fait, voulaient montrer à Dieu qu'ils étaient prêts à mourir que de continuer à vivre dans leur mauvaise conduite. Ils disaient, si Dieu de toute façon nous détruit, autant que nous mourions, nous repentant. C'était vraiment radical. Et c'est peut-être la conversion la plus radicale de toute la Bible. On ne voit jamais une ville qui se tourne vers Dieu comme ça. Ça arrivait là par un gars qui n'avait pas envie que ça arrive en plus. Et alors, Jonas, il a donc obéi à un appel insistant, mais surtout, il y a un amour divin qui s'est manifesté. Et parfois, des gens ont dit « Ah, mais Dieu, en fait, ce n'est pas vraiment Dieu, puisqu'il dit une chose et après il fait l'inverse. » Ça vous est déjà arrivé de dire à vos enfants « Tu vas te brûler en mettant la main au feu ?» On n'a pas envie que ça arrive. On les prévient pour qu'ils changent de conduite, n'est-ce pas? Mais quand Dieu annonce ce malheur sur Ninive, et c'est pour ça que Jonas ne voulait pas y aller, c'était pour que ces gens changent et se repentent. Et ça, pour Jonas, catastrophe. Ça va l'irriter. Et on va aller à la fin du message, donc au chapitre 4. La compassion divine, ça irrite. Enfin, ça irrite surtout Jonas. Mais ça peut nous irriter à nous. Jonas, il ne voulait pas une fin heureuse dans l'histoire. Et Jonas a vécu la seule mission où un homme voulait échouer, mais qu'il a réussi quand même. Il a tout fait. Il a mis les moyens pour échouer. Allez, chapitre 4. Donc, on va lire du verset 1 à 3. Jonas le prit très mal. Et il fut irrité. Juste, une ville entière vient de se repentir. Les pires ennemis du peuple de Dieu se repentent et choisissent de marcher pour Dieu à ce moment-là. Logiquement, en tant que croyant, on se réjouit un peu de ça, normalement. Catastrophe pour Jonas, il en fut irrité. Lui, c'était l'inverse qu'il voulait. À limite, proclamer qu'ils allaient mourir et que ça arrive, ça allait, quoi. C'était envisageable. Mais leur dire qu'ils allaient mourir s'ils ne se repentaient pas, les voir se repentir, c'était juste pas acceptable. Il en fut irrité. Et voici ce que Jonas dit, verset 2. Il prie à l'Éternel en disant, « À Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. » Et j'aime bien la suite. « En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Ce « je savais ». Quand Dieu a parlé à Jonas, Jonas, il a une image dans la tête. Il a dit « c'est pas possible. Dieu ne va pas donner l'occasion à nos pires ennemis de se tourner vers lui. C'est juste pas possible. » Et il dit « je savais que tu es un Dieu bon. Je savais que tu regrettes le mal que tu annonces. Je savais ça. » Et Jonas ne pouvait pas accepter ça. Mais on note aussi sa franchise à Jonas dans sa prière. On note une authenticité qui est là. Il dit vraiment ce qu'il pense. Hein. Un peu comme on retrouve dans les psaumes. « Je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, qui regrette le mal que tu envoies. » Verset 3. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Il y a une ville qui se réjouit car ils ont eu la confirmation que Dieu ne va pas les détruire. Et ils avaient cette conscience que Dieu était en colère contre eux. Ils ont fini de jeûner. Et quand on finit de jeûner, on fait un beau repas souvent. Et oui, ça compense. Il y a peut-être des festivités. Mais il y a un homme qui ne participe pas à la fête. Il y en a un qui est à l'écart. C'est celui qui leur a annoncé le message de Dieu. Jonas, il est l'acteur principal visible du changement. Mais il est le seul que cela attriste. Juste une petite aparté encore sur la foi de Jonas. Il dit « Je savais ». Il dit pas « Je pensais que peut-être tu allais leur pardonner ». Il dit « Je savais ». Je savais que ça allait se faire. C'est pour ça que je voulais pas le faire. Jonas était persuadé de la bonté de Dieu. Ça faisait aucun doute, en fait. Mais lui, il n'était pas capable d'avoir cette bonté envers ses ennemis. Et moi, je le comprends. Je suis un peu Jonas, avec beaucoup de gens. Mais Jonas connaissait la bonté de Dieu. Donc, on est dans la seule mission où un homme voulait échouer. Et cette mission a été réussie. Et cette compassion que Dieu a manifestée, elle dévoile aussi les cœurs. Et là, on va arriver à la fin. Dieu a questionné Jonas, mais Dieu nous questionne aussi. Donc, on se retrouve au verset 4. Jonas qui demande à mourir, vous rappelez, hein, en fait, c'est une demande qui revient assez souvent. Hein. Dans cette histoire, Jonas veut mourir plusieurs fois, plutôt que d'obéir à Dieu. C'est radical. Hein. Pour lui, c'était trop fort. Verset 4. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Allez, logiquement, on répond quoi, là ? Non, bah non, non. Allez, maintenant, Jonas, qu'est-ce qu'il va dire ? « Oui, je fais bien de m'irriter. » On regarde verset 5. « Jonas sortit de la ville, et il s'assit à l'est de la ville. » Donc, il quitte la ville, parce que voir tous ces gens heureux se tourner vers Dieu, c'était insupportable. Il quitte la ville, il sort, et... Là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Peut-être qu'au final, ils vont repêcher. Hein ? On sait jamais. Il peut peut-être encore assister à un gros feu d'artifice, quoi. Verset 6. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Il y a des émotions là. Il est irrité de voir une ville sauvée, mais il a une grande joie pour la plante que Dieu fait pousser. Vous voyez ? Mais on peut être comme ça. Hein. Tout n'est pas logique hein, dans nos raisonnements. Hein. Irrité de voir des gens se tourner vers Dieu, heureux qu'une plante ait poussé. Là aussi, c'est un miracle, la plante a poussé très rapidement. Et on va juste en reparler de sa plante. Donc Jonas a une grande joie. Ah, Dieu s'occupe enfin de moi positivement. Quoi. Ça, c'est chouette. Verset 7, mais le lendemain à l'aurore, alors on va se dire, mais pourquoi Dieu fait un truc pareil ? Le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea donc la plante et la plante sécha. Verset 8, au lever du soleil, alors ça ne s'arrête pas, donc il y a la plante, donc la joie de Jonas, il a de l'ombre. Dieu fait venir un ver, la plante meurt, donc là Jonas, les mauvais souvenirs, les émotions commencent à revenir. Mais ça ne s'arrête pas là au lever du soleil. Dieu fit souffler un vent chaud d'est. Et le soleil frappa la tête de Jonas. Là, il est KO, le mec. Au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort, encore une fois, en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Si on arrêtait le livre-là, on pourrait dire, il est bon pour une thérapie, vraiment, Jonas. Hein. Et Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» La première question sur l'irritation, c'était à propos du salut des gens. Mais là, Dieu lui dit, est-ce que tu fais bien de t'irriter pour cette plante ? La réponse logique, oui. Oui, comme Jonas alors. Alors attendez. Oui. Hein ? Ah, bah oui. Il répondit, écoutez bien, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et oui, tout son bien-être à ce moment-là dépendait de cette plante. Ça dépendait pas de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Oui, j'ai raison de m'irriter. Oui, j'ai raison d'être en colère. Et l'Éternel dit, et là, on va retrouver le cœur de Dieu, quelque chose de fort dans cette question. Verset 10. L'Éternel dit, tu as pitié de la plante, tu as donc pitié de cette plante, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait pousser. Jonas n'a pas planté une graine, il n'a pas arrosé, il n'a pas cultivé, il n'a rien fait pour ça. Cette plante est née en une nuit et a disparu l'autre nuit. En vérité, c'est quelque chose d'éphémère. Une plante qui a existé un jour. Voilà. Tout le monde s'en fiche de cette plante. Et à Ninive, mais tout le monde s'en fichait complètement, quoi. Il y a le seul au monde que ça intéressait, c'est Jonas. Mais le monde entier, le reste de l'humanité pourrait dire « on s'en fiche de cette plante ». Dieu dit « tu te mets en peine pour cette plante ». Donc la plante d'un côté, et Dieu dit « et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux ». Ce sont des formules, incapables de distinguer leur droite et leur gauche. Ils savaient probablement c'était quoi la droite et la gauche, mais c'est une formule qui signifie qu'il n'y avait plus de limites. Il n'y avait plus de structure. Le péché était poussé au paroxysme, il n'y avait plus de normes, il n'y avait plus rien. C'était comme Sodome et Gomorre. Tu dis, tu as pitié de cette plante ? Et moi, j'ai pitié de cette ville avec ces gens. Et le discours s'arrête là. Sur cette question-là, qu'est-ce qui était le plus important ? On ne sait pas la réponse de Jonas, un peu comme si l'auteur voulait que la question se la pose à nous-mêmes, quand Dieu se fait cette comparaison. De quoi devrions-nous nous réjouir ? Et Dieu disait, mais je me réjouis de faire le bien et d'être bon, de pardonner. C'est ça qui réjouit Dieu. De voir une ville de pêcheurs se tourner vers lui, ça réjouissait Dieu. Et il voulait que Jonas, ce personnage si atypique, se réjouisse de ça aussi. Et comme il en était incapable, Dieu a fait cette comparaison. Cette plante-là, elle ne vaut rien comparée à ces gens. Alors Jonas, il n'avait pas de haine contre une plante. On ne déteste pas une plante. Moi, je m'en fiche un peu des plantes, mais Jonas, il n'avait rien contre les plantes. Mais Dieu rappelait à Jonas que ce qui comptait, c'était les hommes qui sont loin de lui. Et quand Jésus dit « Le miracle que vous aurez, c'est le miracle de Jonas », mais Jésus rappelle aussi l'amour de Dieu pour les peuples, pour toutes les nations, pour les individus, y compris des individus qui détestent le peuple de Dieu, y compris des individus qui persécutent le peuple de Dieu. L'amour de Dieu va jusqu'à ces gens-là. L'amour de Dieu aujourd'hui va jusqu'aux gens qui détestent les croyants et qui persécutent les chrétiens. Je ne sais pas si je le dirais avec un sourire si j'étais confronté, moi, à certaines situations dans le monde. Mais Jonas a été confronté à ça. L'amour de Dieu va jusqu'à ces gens-là. Et Dieu laisse cette question. Qu'est-ce qui était le plus important ? C'est quoi qui comptait le plus à ce moment-là ? J'arrête avec l'histoire de Jonas. Et on va juste se faire un petit rappel. Le livre de Jonas, ça nous parle d'un Dieu d'amour qui aime tous les hommes. Jésus, il y a des pharisiens qui l'ont surnommé l'ami des pécheurs. Parce que pour eux, c'était mal d'être l'ami des pécheurs. Les pharisiens, quand ils traitaient Jésus de l'ami des pécheurs, c'était un gros mot pour eux. Pour Jésus, c'était un compliment. Parce que Dieu aime les pécheurs. Ça nous parle d'un Dieu puissant qui compose avec nos faiblesses. Honnêtement. Est-ce que c'est grâce à Jonas que cette ville s'est tournée vers Dieu ? Non mais sincèrement. Un gars qui a pas envie d'obéir. Un gars qui fait tout pour pas que ça marche. Un saboteur. Un saboteur dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu l'utilise. Ce gars-là et ça marche. Je me suis dit, les gens de Ninive, ils ont eu un message un peu abrupt de Jonas, hein, en tout cas ce qu'on en a. Mais imaginez ces gens-là quand ils ont su tout ce que Dieu a fait dans cette histoire pour les sauver. Quand ils ont appris la tempête, le poisson, quand ils ont appris tout ça. Mais imaginez, ces gens-là, ils se sont dit, mais Dieu a mis les moyens pour nous sauver. Il a tout fait pour ne pas nous détruire en vérité. Ce Dieu de miracle, un Dieu de grâce qui offre un nouveau départ. Mais Jonas est le premier à en bénéficier dans cette histoire. Alors quand je disais, mais c'est marrant, Dieu aurait pu envoyer quelqu'un. Mais moi, je suis persuadé que Dieu veut qu'on lui obéisse, même quand on lui a désobéi. Dieu ne fait pas qu'envoyer quelqu'un d'autre à notre place. On n'est pas indispensable. D'autres peuvent faire ce qu'on fait, c'est vrai. Mais Dieu a envie qu'on apprenne à lui obéir. Et Dieu voulait que Jonas lui obéisse. Et que Jonas fasse ce qui lui était demandé. Et ce nouveau départ, les Ninivites l'ont bénéficié aussi. Alors pour eux, c'était un départ, mais vraiment incroyable. Alors c'est qui mon Ninive ? C'est qui ces gens que je pense inaccessibles à la grâce de Dieu ou que j'aime pas profondément ? Moi, je vous avoue, j'en ai. J'en ai dans mon cœur. Mais la bonté de Dieu est plus grande que mon cœur. Et Dieu veut sauver des gens qu'on n'imagine pas. Ici à Villefranche ou ailleurs, c'est vrai. Qui est mon Ninive ? C'est qui que j'identifie comme l'inaccessible, comme le détestable ? Où en est mon niveau de passion ? La passion de Jonas, là, Jonas, il avait la foi dans le sens où il savait que Dieu ferait des grandes choses. Il n'avait pas envie que ça se passe, hein, mais il le savait. Il le savait. Mais il n'avait pas la passion de voir les peuples se tourner vers Dieu. Il n'en avait pas envie. Le niveau de passion en évangélisation, par exemple, à titre personnel, ça m'aide souvent à savoir où j'en suis dans ma vie spirituelle. Alors, je ne dis pas qu'on doit parler de Dieu tous les jours à quelqu'un, etc. Je ne suis pas du tout dans ça. Hein. Mais quand les gens qui sont loin de Christ ne sont plus une priorité dans ma vie, ce qui m'arrive souvent, c'est souvent un signe pour moi, personnel, de ma vraie vie spirituelle avec Dieu. Parce que je crois que quand on aime passionnément Christ, on ne peut pas ne pas se préoccuper de ceux qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas possible que ça soit absent de notre pensée. Ce n'est juste pas possible. Mais si ça l'est, alors il faut réfléchir et se repentir. Et faire un peu comme Jonas, pas attendre qu'il y ait un poisson qui vous avale, mais faire un peu comme Jonas. Et comment je traverse mes épreuves ? L'épreuve de Jonas, elle l'a amené à la repentance et à un changement d'attitude, même s'il y avait du boulot, on le voit jusqu'au bout. Quel sens je donne à mes épreuves dans ma vie ? Alors, une épreuve, une vraie épreuve, c'est un truc qui dure longtemps, hein, normalement. Et on ne connaît pas la fin. Jonas ne connaissait pas la fin de l'histoire quand il la vivait. Mais dans l'épreuve, Dieu est là. Et il se sert de toutes les occasions dans notre vie, dans notre existence, pour nous amener à changer et à lui ressembler davantage. Christ a un grand plan pour nous, c'est qu'on lui ressemble. Et tout est utilisé, toutes les circonstances. Et comme, pour un gars comme moi, c'est les circonstances difficiles qui m'amènent toujours à réfléchir, parce que quand ça va bien, je ne réfléchis pas, mais quand ça va mal, mais Christ utilise ces choses-là pour nous amener à changer. Je vous laisse avec ça. Je vais juste prier, puis pour moi, ça sera bon. Merci pour votre écoute. Je crois qu'elle a été longue en plus, mais vous avez été patient. Merci encore infiniment. C'est pour Virginie et moi un grand privilège d'être aujourd'hui avec vous. Et voilà, que Dieu nous guide les uns les autres dans nos réflexions, dans nos prières. Et je conclue donc le message. Père, merci. Merci pour l'amour que tu as pour nous, mais également pour nos contemporains, pour notre ville, pour nos quartiers, pour nos voisins, pour nos collègues de travail, je pourrais même dire peut-être pour des managers qui nous pourrissent la vie, pour des gens qui sont mal aimables, ou même des gens qui s'opposent, qui nous détestent. Oh, qu'on puisse comprendre ton cœur, qu'on puisse le discerner. Qu'on puisse être animé de cette passion, de cette flamme, pour ceux qui sont loin de toi. Ramène-nous à ça. Ramène nos cœurs à ça. Aide-nous à vivre nos temps de difficultés, d'épreuves, en nous rappelant que tu es là dans ces moments-là. Et que ton désir, c'est que nous ressemblions à Christ. Aide-nous à vivre aussi cette foi dans l'évangélisation, mais une foi remplie d'amour et de passion. Aide l'Église ici à vivre ça au quotidien. Donne-nous aussi la grâce de voir des résultats. Donne-nous la grâce de connaître, de croiser, d'avoir devant nous ces gens qui te cherchent, ces gens qui sont en questionnement, ces gens qui ont besoin d'entendre ta parole. On veut te faire confiance, Père. Merci, et merci encore pour ton amour, parce que tu nous donnes des seconds départs, parce que tu veux que nous t'obéissions et tu mets les moyens pour ça. Alors merci infiniment, Père, et Amen.